Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique juridique. Pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez pu constater que ma voix s'était un peu éteinte ces dernières semaines. La vie d'un avocat n'est pas toujours linéaire et j'ai donc dû manquer plusieurs de nos rendez-vous programmés, ce dont je vous prie de m'excuser. Alors aujourd'hui, comme la loi sur la réforme des retraites a fini par être promulguée au petit matin, et même si la contestation reste vive, en attendant la résignation, j'ai voulu vous parler de la dernière étape, celle du Conseil constitutionnel et plus généralement de ce que l'on a appelé le cheminement démocratique. Comme vous le savez, le président Macron a indiqué que la loi avait terminé donc son parcours démocratique. Or, la démocratie, c'est certes le respect des textes, mais le seul respect des textes ne peut suffire à assurer le caractère démocratique d'une loi. Comme l'écrivait Montesquieu, il y a la loi, mais il y a aussi et surtout l'esprit des lois. En l'occurrence, et sans que ça ait jamais été fait jusque-là, le gouvernement, qui n'a pas de majorité, a renoncé à faire voter l'Assemblée nationale et engager sa responsabilité avec le fameux article 49.3 de la Constitution. C'est-à-dire que si une motion de censure n'est pas déposée et votée dans un court délai, le texte est adopté. En soi, ce gouvernement commence à l'utiliser souvent, mais il faut avoir l'honnêteté de dire que d'autres l'ont fait avant. Mais en revanche, il y a ajouté une collection de trucs et astuces qui, cumulés, entretiennent la confusion. Déjà, premièrement, on l'a oublié, mais la réforme, une autre réforme, celle à point, avait déjà été votée en 2020, juste avant le confinement. Curieusement, elle n'est pas ressortie après des cartons, alors qu'elle aurait pu suivre, justement, son chemin démocratique. Puis arrive la non-campagne électorale, pendant laquelle le président fait le service minimum, une déclaration de candidature qu'il faut lui arracher très tard, un vague meeting sous prétexte de guerre en Ukraine, quelques idées jetées sur un tract en guise de programme, aucun débat véritable et la réélection en poche, surtout obtenue par résignation des Français. On sort cette nouvelle réforme qu'on avait avant, des vidéos existent, indiquées ne pas vouloir faire, le report de l'âge. Ensuite, zéro débat avec les partenaires sociaux. Puis on use de 3 ou 4 articles de la Constitution pour s'arrêter avant l'article 7 à l'Assemblée nationale. L'article 7, c'est justement le fameux report de l'âge, qui n'a donc pas été voté à l'Assemblée nationale. On passe alors au Sénat et on écourte le débat avec un autre article, rejet de tous les amendements en un bloc. Et enfin, on retourne à l'Assemblée et 49-3 sans débat. Ça fait quand même beaucoup pour un parcours démocratique. Ah si, on s'est débrouillé pour mettre dans le texte des choses dont on sait que le Conseil constitutionnel ne pourra que les écarter. Et oui, parce que l'astuce, c'est que le gouvernement a utilisé une loi qui n'a pas grand-chose à voir avec la retraite. C'était la loi de financement de la sécurité sociale, pour faire passer sa réforme des retraites. Alors si on y met, par exemple, un index sur l'emploi des seniors ou un contrat spécial senior qui avait été obtenu par la droite au Sénat en échange de son vote favorable, on sait qu'ils seront retoqués, ce qui est le but, on le verra plus tard. Au final, on saisit le Conseil constitutionnel et vous connaissez la suite, validation du texte, sauf les fameux cavaliers législatifs qu'on y a mis exprès. Comme ça, tout le monde a gagné, mais au final, c'est les salariés qui ont perdu. Alors on promulgue la loi dans la nuit, et voilà, on a fini le prétendu parcours démocratique et on s'étonne d'entendre des bruits de casseroles. Alors on va revenir sur ce fameux Conseil constitutionnel. Pourquoi ça laisse un goût amer? Parce que beaucoup ont pensé, et des constitutionnalistes chevronnés, que devant une telle accumulation de gestes non démocratiques, le Conseil aurait pu censurer. Mais en vrai, tout le monde n'avait qu'un espoir très modéré. Et pourquoi? Il faut revenir à la genèse de l'institution. Le Conseil constitutionnel, c'est une institution française qui a été créée par la Constitution du 4 octobre 58, donc celle de la Ve République. Il se prononce sur la conformité à la Constitution des lois et de certains règlements dont il est saisi. Il veille aussi à la régularité des élections nationales et des référendums. Mais la particularité, c'est que contrairement à tous les autres pays, ce n'est pas une cour constitutionnelle. Dans un pays normal, au-dessus des juridictions ordinaires, il y a une cour suprême qui peut être saisie pour dire si la cour de cassation locale n'a pas rendu une décision anticonstitutionnelle, comme par exemple aux USA, quand on a parlé récemment de la remise en cause du droit à l'avortement. Et cette cour suprême est constituée de juges de haut niveau. Mais en France, ce n'est pas comme ça. Déjà, le Conseil constitutionnel n'est pas du tout rattaché aux juridictions. Il vit sa vie tout seul. Et jusqu'à la réforme de 2008, il ne pouvait être saisi que par des politiques, 60 députés ou sénateurs, le gouvernement ou le président de la République. Depuis 2008, c'est vrai, on peut essayer de le saisir à l'occasion d'un litige devant un tribunal par ce qu'on appelle une QPC, c'est-à-dire une question prioritaire de constitutionnalité. mais les conditions sont très restrictives. C'est-à-dire que vous dites au tribunal, voilà, je vous saisis parce que la loi qu'on vous demande d'appliquer, je crois qu'elle est anticonstitutionnelle. Et si le tribunal accepte, il envoie cette question au Conseil constitutionnel qui va statuer dessus. Et puis ensuite, l'affaire revient devant le tribunal. Surtout, c'est dans la composition du Conseil constitutionnel que le doute s'installe. On pourrait croire que, s'agissant de donner une appréciation juridique de haut niveau sur le respect de la Constitution par une loi, il n'y aurait que des juristes dedans, qui plus est spécialistes en droit constitutionnel. Or, ce n'est pas du tout le cas. Outre les anciens présidents de la République qui sont membres de droit, mais Sarkozy et Hollande ne siègent plus. Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés sur des critères exclusivement politiques, puisque choisis par le président de la République et les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, de préférence parmi leurs amis. Si jusque-là, il y avait parfois des nominations qui étaient encore techniques, les dernières sont clairement politiques. Sur les 9 actuels ont été nommés 2 anciens de ces ministres par Emmanuel Macron, Jacques Mézard et Jacqueline Gourault, Alain Juppé, dont l'allégeance au président ne fait pas de doute, et la procureure de la République qui a classé sans suite son affaire de prise illégale d'intérêt par Richard Ferrand, et des amis politiques proches par Gérard Larcher. Dès lors, entre les amis politiques, vos anciens ministres et une procureure dont on est quand même en droit de se demander si les raisons de sa nomination, il était clair que l'on ne pouvait pas attendre grand-chose de très juridique d'un organisme politique qui n'a de juridictionnel que le nom. Et ça, c'est sans doute une réforme qu'il faudra mener un jour, faire que le Conseil constitutionnel devienne une vraie Cour suprême. Voilà, vous savez tout, et je vous retrouverai avec plaisir sur Radio Pays Héros et RPH dans 15 jours, car n'oubliez pas, vous comme moi, nous en avons pris pour perpète. Au nom de la loi, une chronique judiciaire de Laurent Epaille, avocat, écoutez les 2e et 4e mardis du mois à 12h45, rediffusion le jeudi à 9h35.